nous continuons notre périple. Et nous arrivons donc ce matin au Jourdain, à force d'avoir marché, pour parler du souvenir. On va regarder les chapitres 3, 4 et 5. Et on commence donc par une nouvelle question. Quelle est votre capacité à oublier ce que Dieu a fait pour vous dans le passé? Pendant combien de temps vous entretenez le souvenir d'une réponse à vos prières, d'une belle chose arrivée dans votre vie, d'une victoire? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est un an? Nous sommes oublieux, clairement, surtout des bonnes choses. Facilement, on oublie comment on a réussi à traverser certaines difficultés. On oublie que ce que nous avons maintenant, nous ne l'avons pas toujours eu et que parfois, on l'a demandé à Dieu en pleurant. On oublie facilement les belles choses que Dieu a fait pour nous, comment il a débloqué des situations, comment il a répondu aux prières, comment il a donné les bonnes personnes au bon moment. Parfois même, on oublie comment est-ce qu'il nous a sauvés. Cette capacité à oublier n'est pas propre à nous. Nos prédécesseurs étaient exactement pareils. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'Israël est un peuple qui oublie tout le temps. Ils oublient sans cesse que Dieu est le seul Dieu. Ils oublient sans cesse qu'il est puissant et qu'il est bon. Depuis Abraham, l'histoire se répète. Dieu les sauve, ils disent merci, et puis ils pêchent, et donc Dieu cesse de s'occuper d'eux. Donc ils ont des problèmes, donc ils demandent pardon, donc Dieu les sauve, et puis ils pêchent, et puis ils oublient que Dieu les a sauvés, ils commencent à faire n'importe quoi, etc., etc. Et ça continue comme ça pendant à peu près tout l'Ancien Testament. Lors de son dernier discours, juste avant sa mort, Moïse appelle le peuple à se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour eux depuis la sortie d'Égypte. Si nous voulons posséder pleinement notre héritage, nous devons nous souvenir chaque jour de ce que Dieu a fait. Et c'est de cela dont parlent les chapitres qu'on va regarder aujourd'hui. On va lire les chapitres 3 et 4. Le message va porter aussi sur le chapitre 5, j'y ferai référence, mais c'est beaucoup trop long et je vais principalement parler de chapitres 3 et 4. Donc je vais demander à Louise de venir nous lire Josué 3 et Josué 4.
Josué 3. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Shittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'un kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple : Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Au prêtre, il dit : Prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. Donne au prêtre qui porte le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit : Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Alliance le Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, située à côté de Tsartan, tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les porter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit « Passez devant le coffre de l'Éternel votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que les pierres signifient, vous leur répondrez « Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. » Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué. Ils les emportèrent au campement et les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le monde eut passé de l'autre côté, le coffre de l'Alliance porté par les prêtres reprit la tête du peuple. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. Environ 40 000 soldats armés, équipés pour la guerre, s'avancèrent pour le combat, devant l'Éternel, en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites, et ils respectèrent son autorité, comme il l'avait fait pour Moïse durant toute sa vie. Ensuite, l'Éternel dit à Josué « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant l'acte de l'Alliance » de sortir du milieu du Jourdain. Josué donna cet ordre aux prêtres. « Sortez du milieu du Jourdain !» Dès que les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel eurent quitté le lit du fleuve et posé le pied sur la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et se mirent à couler comme auparavant le long de ses berges. C'est le 10e jour du premier mois que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites « Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même vous révériez l'Éternel votre Dieu pour toujours. »
Merci beaucoup. Non, c'est bon. J'ai mon texte là.
Ce texte est un texte qui fait appel à la mémoire et qui nous encourage à avoir de la mémoire. On a dans ce récit de traversée le souvenir d'une traversée précédente. Normalement, il y a des choses qui se sont allumées dans votre petit cerveau. Le souvenir d'une alliance précédente et enfin un mémorial pour ce souvenir. D'abord, le souvenir d'une traversée précédente. La première chose qui frappe à la lecture de cette histoire, c'est que cette histoire a un petit air de déjà-vu. Les deux chapitres racontent les événements un peu dans le désordre. Alors, je vais résumer. Le peuple part donc du camp de Sittim et s'installe au bord du Jourdain. Après 3 jours de glande, les consignes arrivent. Le coffre de l'Alliance sera porté par les prêtres qui partiront en premier et le peuple traversera à sa suite à une distance d'1 kilomètre du coffre, sans doute pour que tout le monde puisse voir le coffre. Comment cela va être possible? Tout simplement parce qu'une fois que l'arche, le coffre sera au bord de l'eau, les eaux s'ouvriront miraculeusement pour laisser passer le coffre puis le peuple. Et les eaux resteront à leur place tant que l'arche sera dans le lit du fleuve. Donc les prêtres prennent l'arche, ils avancent jusqu'au milieu du fleuve, ils attendent, ils laissent tout le peuple passer et puis à la fin ils ressortent en dernier. Cela ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à la traversée de la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte. Comme lors de la traversée de la mer Rouge, le peuple se retrouve devant un obstacle infranchissable a priori, une étendue d'eau et pas de bateau pour faire passer des milliers de personnes. Mais ici, il y a une nouveauté, ils n'ont pas Moïse avec eux. Et j'imagine tout à fait le peuple dire « Oh bah c'est bête, c'était Moïse le spécialiste de ce truc et il est pas là. Comment qu'on va faire maintenant qu'il est pas là alors que c'est lui normalement qui ouvre les eaux ?» Et là, on retrouve la problématique du chapitre 1, comment passer après Moïse. C'est le premier de plusieurs miracles que Dieu va faire sous le mandat de Josué. Et s'il veut montrer au peuple que Josué a bien son approbation et qu'il est avec lui comme il était avec Moïse, quelle bonne idée de reproduire le miracle de Moïse. Et en renouvelant le miracle des eaux asséchées, Dieu montre d'une part que ce n'est pas Moïse le spécialiste de l'ouverture des mers en deux, mais que c'est bien Dieu. Et d'autre part que Josué a bien la même approbation que Moïse. Mais il y a des différences entre les deux traversées, peut-être vous l'aviez remarqué à la lecture, et ces deux principales différences nous montrent ce que Dieu veut dire spécifiquement lors de cette traversée. La première différence, c'est que ce récit est long. Louise l'a remarqué, et vous l'avez peut-être remarqué avec elle. Il est beaucoup plus long que celui de la traversée de la mer Rouge qui est expulsée en Exode 14 en 31 versets, alors que là, ça nous met deux assez long chapitre. Ici, on prend son temps, on donne des détails, on répète les instructions qui ont déjà été données, etc. Pourquoi une telle différence? Déjà parce que le contexte est différent. En Exode, le peuple avait une armée aux trousses et la traversée, elle s'est faite dans l'urgence, dans la précipitation. Le peuple criait à l'Éternel et l'Éternel a fait un miracle via Moïse pour les sauver. Avec Moïse, les Israélites fuyaient les ennemis. Ici, ils vont à leur rencontre. Ils sont bien là. Ils sont posés, personne ne leur veut du mal sur cette rive-là du Jourdain. C'est sur l'autre rive que les problèmes vont commencer. Rien ne les oblige en fait à traverser, à part que Dieu leur a dit que l'héritage était de l'autre côté. Le but de la traversée n'est pas la même. En Exode, Dieu les fait traverser pour les sauver. Ici, il les fait traverser pour qu'ils entrent en possession de leur héritage. Si on pense au peuple comme un homme libéré de l'esclavage, ici, on raconte le moment où il devient, pour la première fois, propriétaire d'un bien ou d'une maison, alors que c'était interdit quand il était esclave. D'abord, il a été affranchi, et c'était bien, et après, il devient lui-même propriétaire. C'est un petit peu ce qui se passe ici, cette deuxième traversée. On assiste à la deuxième étape du plan. D'abord, la libération. Ensuite, la bénédiction, la réalisation des promesses de Dieu dans le lieu promis où il habitera parmi son peuple. C'était la première différence. Deuxième différence, Josué n'est pas en tête du cortège. Moïse était en tête du cortège avec son petit bâton, là, il a tapé les eaux, il a marché, tout le monde l'a suivi. Vous avez forcément vu des dessins. Mais rien de cela ici. Josué n'est pas en tête du cortège, ce sont les prêtres et l'Arche de l'Alliance qui sont d'abord devant, et puis après, une fois que tout le monde est passé, derrière. Et l'eau ne s'ouvre pas quand Josué pose le bâton ou son pied sur l'eau, mais l'eau s'ouvre quand les prêtres vont, le prêtre qui est devant là, je vous montrerai une image de l'Arche de l'Alliance, le prêtre qui est devant, quand il pose son pied dans l'eau, c'est à ce moment-là que l'eau s'ouvre. Pourquoi? Dans les deux cas, c'est Dieu qui est devant, en fait. Moïse représentait l'Éternel, mais maintenant qu'il y a la loi et l'arche qui est à l'intérieur de la loi, eh ben, c'est cette arche qui représente la présence de Dieu. Donc mettre l'arche devant, c'est mettre Dieu devant, de la même manière que mettre Moïse devant, c'était à ce moment-là mettre Dieu devant. Alors qu'est-ce que c'est que ce coffre de l'Alliance? Sa construction nous est décrite en Exode 37, et c'est à partir de ça qu'il y a des petites images qui circulent sur Internet. C'est un coffre de bois, recouvert de feuilles d'or, donc c'était pas si lourd que ça en a l'air, hein, c'était pas de l'or massif. avec des panneaux aux quatre coins, enfin des anneaux, pardon, aux quatre coins, pour y glisser des barres de bois pour qu'on puisse le porter sans le toucher. Et sur le coffre, il y a un joli couvercle recouvert d'or avec deux créatures ailées. Ça s'appelle des chérubins, mais les chérubins, ce ne sont pas les petits angelots, d'accord ? On ne sait pas exactement à quoi ressemblaient les chérubins. Ce sont des créatures avec des ailes, c'est le seul truc qu'on sait. Donc là, vous, on vous a essayé un truc. J'ai l'impression que c'est des lions assis. Enfin voilà, on ne sait pas trop en fait, mais ce sont des chérubins. Pourquoi ce coffre ? Pour y mettre les tables de la loi. Hein, les tables de la loi de Moïse sont à l'intérieur. Et dans le tabernacle, quand Dieu se révélait à Moïse, il le faisait juste au-dessus du couvercle entre les deux chérubins. L'arche, c'est le signe visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et il passe devant pour figurer que Dieu est à la tête de son peuple. Et que tant que Dieu est là, dans le lit du fleuve, eh bien vous êtes protégés. Et qu'il faut, et une fois que tout le monde est passé, Dieu sort et les eaux se referment. C'est Dieu lui-même, avec sa loi, qui va les guider. Et ils ont besoin d'être guidés, puisque comme le précise l'auteur au verset 3, ils ne connaissent pas la route. Ils ne savent pas par où faut passer pour traverser le Jourdain. Un but différent, une façon de figurer la présence de Dieu différente, mais le même miracle. Deux miracles symétriques qui se répondent. D'abord, Dieu veut donner le même enseignement au peuple à ces deux occasions. Je suis celui qui combat pour vous. Je suis celui qui vous protège. Je suis celui qui vous sauve. Cette déclaration, elle est présente dans les deux récits, au verset 10 du chapitre 3 et en Exode 15, verset 14. Je suis celui qui combat pour vous. Et ensuite, la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan, c'est le même type d'événement parce que l'un ne va pas sans l'autre. Dieu ne conçoit pas la libération sans l'entrée en héritage. C'est les deux revers d'une même médaille de l'intervention de Dieu et de Dieu seulement dans leur vie. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous avons été sauvés et nous sommes entrés en bénédiction grâce à Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui a fait le miracle. C'est lui qui est venu lui-même pour se sacrifier, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, entrer dans notre héritage. On peut dire que c'est notre traversée à nous, celle que nous avons fait grâce à Dieu, qui nous a menés ici aujourd'hui, celle qui nous a sortis de l'ignorance, du péché, de l'égoïsme, et qui nous a libérés de tout ce qui nous empêche d'être vraiment en relation avec Dieu, d'être vraiment heureux. En fonction de votre parcours de foi, votre traversée est peut-être plus ou moins consciente. Peut-être qu'elle a été rapide et claire, peut-être qu'elle a commencé quand vous étiez très très jeune, peut-être que vous êtes encore en train d'avancer dans le Jourdain. Quoi qu'il en soit, si vous êtes là, c'est qu'il y a traversé. Et je vous encourage à continuer à penser à votre propre traversée, votre propre parcours de foi, qui vous permet petit à petit à mieux vous attacher aux promesses de Dieu, alors qu'on va revenir à Josué. Mais continuez à penser à votre propre cheminement pour qu'on fasse le parallèle avec ce qui se passe ici. Le souvenir d'une traversée précédente et ensuite le souvenir d'une alliance précédente. Je vais boire. Dieu ne fait pas de miracle pour le show. C'est vrai pour les miracles de Jésus dans le Nouveau Testament, mais c'est aussi vrai pour les miracles extraordinaires qu'on a dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas bling-bling, il fait les choses parce qu'elles ont du sens. Et ici, ce miracle, c'est pas juste l'effet « waouh », c'est un miracle qui a du sens. Il y a toute une série d'indices qui montrent qu'on a affaire ici à un acte religieux, à un acte cultuel, une conclusion d'alliance entre Dieu et son peuple. Premièrement, la préparation de la traversée. Josué dit au peuple de se purifier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit principalement de laver son corps et ses vêtements, il ne le faisait pas tous les jours, contrairement à vous, et de s'abstenir de relations sexuelles. Le peuple l'avait déjà fait à la demande de Moïse avant de recevoir les 10 commandements, avant de faire alliance avec Dieu, mais on leur redemande de faire ça ici. Quand on s'apprête à faire alliance avec le Dieu saint, il faut être saint. À défaut de ne pas être capable de ne pas du tout faire de mal, de ne pas du tout pécher, Dieu demande au peuple de se purifier extérieurement comme témoignage d'une volonté de purification intérieure. Dieu sait très bien que le fait de laver ses vêtements, ça n'enlève pas le péché. Mais en lavant ton corps et en lavant ton vêtement, pendant que tu le fais, tu te dis « Ok, je me purifie extérieurement comme signe qu'en fait je veux aussi être purifié intérieurement. » Afin que le peuple comprenne que Dieu va se manifester à eux et qu'on ne se présente pas à Dieu n'importe comment. Ça, c'est le premier indice qui nous montre que c'est une alliance, le fait qu'il faut se purifier, comme Moïse avait demandé de se purifier avant de recevoir les 10 commandements. Deuxième indice, le rôle des prêtres. Vous remarquez qu'ils sont très présents dans le texte. On a à la fois le récit des instructions que Josué leur donne et le récit de la réalisation. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas les mêmes temps de verbe. Ce sont eux qui sont chargés de transporter le coffre de l'Alliance et c'est eux qui tiennent le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Le rôle de ceux qui rendent possible, par le respect des règles, la présence de Dieu au sein de son peuple. Ce sont pas eux qui portent le coffre, d'habitude. Ce sont des simples lévites qui ne sont pas prêtres, qui sont membres de la tribu de Lévi, mais qui sont pas prêtres. Mais Dieu ordonne que, à cette occasion, ce soit les prêtres qui portent l'arche de l'Alliance pour faire comprendre que ce qui va se passer, c'est une cérémonie religieuse, c'est une cérémonie d'alliance. L'autre indice qui est lié aussi au rôle des prêtres, c'est évidemment la présence de Dieu. Dieu est présent partout, tout le temps. C'est vrai aujourd'hui, les Israélites le savaient déjà, que Dieu était présent partout, tout le temps. Mais ils savaient aussi que Dieu se rendait présent de manière particulière à certains moments où il rencontrait son peuple pour les bénir, pour lui donner ses instructions pour conclure une alliance. De la même manière que Dieu s'est rendu particulièrement présent pour nous en Jésus, quand il est venu sur la terre et quand il est mort et ressuscité. Et dans le chapitre 3, on a à deux reprises l'expression « au milieu de vous » en parlant de Dieu. Dieu va faire des prodiges au milieu d'eux, et verset 10, il est vivant au milieu d'eux. Il était déjà au milieu d'eux, mais à cette occasion-là, Dieu leur dit, je vais être particulièrement au milieu de vous. Les Israélites sont prévenus, ils vont rencontrer Dieu. Ils vont le voir au milieu d'eux à cette occasion, comme leur ancêtre l'avait vu lors de la conclusion de l'alliance au Sinaï. Et le troisième indice, que c'est le souvenir, que c'est une alliance, et c'est sans doute le plus fort, c'est la traversée elle-même. Plusieurs fois, le narrateur, vous l'avez peut-être pas si vous avez une version littéraire et non pas littérale, dynamique et pas littérale, le narrateur emploie le terme des eaux coupées en deux pour parler de l'assèchement des eaux, notamment 4 verset 6. C'est le bon terme, à la fois parce que visuellement on comprend, on voit tout de suite ce qui se passe là, on imagine de grosses vagues, voilà, qui coupent la mer en deux, mais cela fait référence aussi à une autre traversée, celle d'Abraham en Genèse 15. C'est inutile de chercher dans vos souvenirs. Abraham n'a pas traversé ni de mer ni de fleuve à pied. Mais quand Dieu va faire alliance avec lui, il va lui demander de prendre des animaux, de les couper en deux. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, va passer entre les animaux pour conclure cette alliance. C'était une cérémonie qui était connue dans le Proche-Orient. C'est un peu glauque, mais ça se faisait. On coupe un animal en deux et je veux conclure une alliance avec Yuki. On va prendre un animal. Alors ici, on n'a pas trop le choix. On va prendre un chat errant. On va le couper en deux. On va le séparer et je vais passer en disant qu'il me soit fait comme à ce chat si je ne respecte pas mon alliance. Et Yuki va faire pareil entre les deux parties d'animaux, qu'il me soit fait comme à ce chat si je ne respecte pas cette alliance. Ça, c'est ce qui se faisait dans le Proche-Orient ancien. Dieu fait un truc un peu différent avec Abraham. D'une part, Abraham ne passe pas entre les animaux. Seul Dieu passe, car lui seul s'engage. Et on a un souvenir de ça ici, avec le narrateur qui reprend le mot « coupé » plusieurs fois. En traversant ce fleuve coupé, le peuple est en train de conclure une alliance avec Dieu, qui lui-même, via l'arche, traverse ce peuple. Et c'est évidemment appuyé par la présence au milieu du fleuve durant toute la traversée de l'arche de l'Alliance, qui porte bien son nom, hein, puisqu'il porte à l'intérieur les clauses de l'Alliance. Dieu s'engage à être avec le peuple, à les guider et à les bénir, et en échange, ils doivent l'honorer et aimer son prochain. Ça, c'est eux. Et nous. Le sacrifice de Christ à la croix nous a fait rentrer dans une alliance. Dieu s'engage à être notre Dieu, à nous sauver et à être avec nous pour toujours. Qui dit alliance dit prêtre, et Jésus a été notre prêtre. Je vous encourage à lire Hébreux si vous avez une insomnie cette nuit. Et qui dit alliance dit aussi purification du peuple. Et là, je dois vous raconter une histoire qui va vous rappeler des souvenirs juste de la DAB avant, donc ça va pas être très très violent. Il y a quelques années, une de mes amies musulmanes que j'ai depuis la fac, et je suis vieille, donc c'est une amie que j'ai depuis longtemps, je ne sais plus dans quel contexte elle avait commencé à lire l'Ancien Testament. Et elle était tombée sur une liste d'interdits du Lévitique. Elle était tombée sur l'interdit qui disait qu'il ne fallait pas manger de porc. Et ma copine savait que, un, j'avais vraiment à cœur de respecter les lois de Dieu, et que, deux, je mangeais du porc. Complètement paniquée et inquiète pour mon salut, elle a pris son téléphone pour m'appeler pour me dire « Marion, tu fais n'importe quoi depuis des années !» J'ai lu l'Ancien Testament, et il se trouve que tu n'es pas censée manger de porc. S'en est suivi une discussion vraiment passionnante où on a parlé de ce qui rend pur dans l'islam et dans le judaïsme de l'Ancien Testament et de ce qui rend pur dans le christianisme. Je lui ai expliqué que c'est Jésus qui, par son sacrifice, me purifie rituellement et que si les lois morales de l'Ancien Testament tiennent encore parce que ça dise qui est Dieu, les lois rituelles sont caduques parce que c'est Jésus qui a été le sacrifice parfait qui m'a donné sa pureté. Jésus nous a rendus purs, donc on n'a pas besoin de laver nos vêtements et de, c'est quand même mieux, et de se laver et de s'abstenir de relations sexuelles ou autres pour lire la Bible ou pour prier. Il n'y a pas d'état religieux qui correspondrait à une façon de s'habiller ou une façon de se comporter. L'état religieux qui correspond à la bonne façon de prier, c'est en Christ. Et ça vous est offert par le sacrifice de Jésus. Notre statut devant Dieu dépend de Jésus. Il a conclu une alliance entre son Père et nous. Dieu s'engage à être avec nous pour nous guider et pour nous bénir. Et en échange, nous allons l'honorer et aimer nos prochains. Une traversée, une alliance et finalement, un mémorial pour se souvenir. Josué va demander qu'on choisisse 12 hommes, un par tribu, pour récupérer des pierres dans le Jourdain et pour ériger un monument là où ils s'installeront ensuite à Gilgal. Je vais revoir. Peut-être j'aurais arrêté de boire et parler moins vite, ce serait plus efficace pour tout le monde, mais je vais essayer. Donc Josué demande, on prend 12 hommes, un par tribu, pour que tout le monde soit représenté. Ils vont dans le Jourdain, alors pas trop loin, sinon ils vont se noyer, juste sur le bord. Ils récupèrent 12 pierres. Ah non, ils le font pendant la traversée, donc du coup ça va, c'est encore à sec. Ils récupèrent 12 pierres pour ériger un monument type ça, mais sans doute mieux, j'espère, je sais pas. Ils vont prendre chacun une pierre dans les lits du fleuve. Le texte dit qu'ils la chargent sur leur épaule, donc ça montre qu'on a affaire à une pierre, hein, pas un petit caillou. Et à la fin de notre passage, ils en font un ota à Gilgal où ils vont camper. Pourquoi ce monument ? Le verset 7 dit que c'est pour qu'ils se rappellent de l'alliance conclue lors de cette traversée. Comme un contrat qu'on signe et qui nous rappelle qu'on s'est engagé auprès d'un patron. Comme une alliance qu'on porte au doigt et qui nous rappelle au cas où on oublierait qu'on est marié. Ce monument est là pour rappeler au peuple que Dieu a fait alliance avec lui et qu'il va tenir ses engagements. Il leur donnera leur héritage, quoi qu'il arrive. Au verset 24, Josué imagine une deuxième fois que les enfants interrogent leurs parents sur la signification du monument. Il le fait à deux occasions dans le texte. Et si vos enfants un jour vous disent « qu'est-ce que c'est que ce tas de pierres ? Pourquoi c'est là ? Ça gêne, c'est moche. » L'idée, c'est de leur répondre à la fois que c'est un témoignage pour l'intérieur, pour le peuple, mais aussi pour l'extérieur, les nations. Pour l'intérieur, verset 24, pour que le peuple révère l'Éternel pour toujours. Révérer ou craindre, hein, selon vos versions, qu'il respecte Dieu, qu'il n'oublie pas qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il ne manque pas de respect en commençant à adorer d'autres dieux, des dieux territoriaux ou les dieux de leurs voisins, en oubliant qu'il est leur Dieu et le seul vrai Dieu. Un mémorial qui nous rappelle qu'il y a un seul Dieu qui nous a sauvés, il y a un seul Dieu qui nous adore, les autres, c'est des faux dieux. Mais aussi un témoignage pour l'extérieur, pour les nations. Toujours verset 24, pour que tous les peuples de la terre sachent combien est grande sa puissance. Pour que les nations autour comprennent que ce Dieu-là, c'est pas juste le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu de toute la terre. C'est un Dieu qui a autorité sur toute la création et qui a aussi autorité sur eux. Mais vous l'avez peut-être remarqué à la lecture, ou peut-être pas parce que c'est un peu chaud, il y a en fait un deuxième monument. Il n'y a pas juste un seul tas de pierres. Il y a un deuxième tas de pierres. Josué lui-même, Dieu demande à Josué lui-même d'ériger un monument de 12 pierres au milieu du Jourdain, au lieu même où le coffre de l'Alliance s'est arrêté pour faire passer le peuple. C'est un signe au fond de la mer qui marque la limite du territoire. On va plus le voir, hein. Une fois que la mer s'est refermée, on le verra pas ce truc. Donc c'est pas la même utilité que celui-là. Il marque un avant et un après. C'est comme une borne de frontière. Avant cette borne, le peuple était un peuple sans terre. Après cette borne, il est maintenant un peuple qui a un héritage et qui peut en profiter. Ça marque la frontière entre avant, j'étais certes affranchi mais pas propriétaire, et maintenant j'entre dans mon héritage. deux mémoriaux, deux signes physiques pour que le peuple se souvienne. Tout tourne autour du souvenir dans ces chapitres, et c'est encore le cas dans le chapitre 5 qu'on n'a pas lu pour vous épargner une lecture beaucoup trop longue. Mais si vous avez votre Bible sous les yeux, rien qu'avec le titre, rien qu'avec les titres, vous pouvez déjà voir de quoi il s'agit. Vous verrez que, une fois à Gilgal, de l'autre côté du Jourdain, donc, le peuple va faire deux choses. Circoncire les nouveaux enfants qui n'ont pas été encore circoncis. Dans le désert, on marche beaucoup, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ce genre de choses. Il faut mieux qu'on soit posé pour faire ce genre de truc. Et célébrer la Pâque. Deux choses qu'ils vont faire dès qu'ils vont s'installer à Gilgal. Circoncire les nouveaux enfants et célébrer la Pâque. La circoncision met un signe dans le corps de tous les mâles du peuple du fait qu'ils appartiennent à Dieu. Dans Lévitique, vous aviez vu, ceux qui avaient une tradition littérale, il y avait l'idée que les arbres fruités étaient incirconcis et qu'il fallait du coup les couper et les donner à Dieu. C'est la signe qu'on donne, le bout de son prépuce en l'occurrence là, pour la circoncision, quelque chose à Dieu pour montrer qu'on lui appartient et que tout lui appartient. Merci Manu. Pardon, du coup je me suis perdue. Oui, et la célébration de la Pâque leur rappelle ce qu'ils ont vécu à la sortie d'Égypte, qu'ils ont été libérés. Et cela, avec les pierres sous les yeux, leur rappelle que Dieu les a fait entrer dans son royaume et dans sa famille. Ça, c'est eux. Et nous. Pourquoi est-ce que nous sommes fait baptiser? Ou pourquoi est-ce que nous pensons, ou pourquoi est-ce que nous pensons pas, mais il serait bien trop temps d'y penser, de se faire baptiser? Pourquoi est-ce qu'à l'église, nous mangeons du pain et nous buvons du vin ensemble, comme Jésus l'a demandé à ses disciples? Pourquoi est-ce que nous allons même à l'église? Pourquoi est-ce qu'on a pris une semaine de nos vacances pour venir ici? Tous ces temps sont des temps mémoriaux. Ils sont là pour nous rappeler notre propre traversée hors de la famille de Dieu à dans la famille de Dieu. Ils nous rappellent comment Dieu a rendu possible quelque chose d'impossible, des pécheurs déclarés justes et vivant en communion avec Dieu. Ce rassemblement, ces rites nous aident à nous souvenir que Christ s'est sacrifié pour notre propre purification. Et on a besoin de ce souvenir. Et ce sont aussi d'ailleurs, comme les petits tas de pierres, des mémoriaux pour l'extérieur et pour l'intérieur. Ce sont des mémoriaux qui servent aux chrétiens. N'oublions pas quel Dieu a été pour nous. Dans les moments de difficulté où on a l'impression que peut-être tout nous est hostile, nous devons nous rappeler de la bonté de Dieu à notre égard dans le passé. Les temps que vous passez avec les chrétiens, la scène que vous partagez, tout ça sert à vous rappeler quel Dieu a été et est pour vous. Mais aussi dans les moments faciles où tout nous sourit, où on a l'impression qu'on peut tout contrôler, que Dieu ne sert à rien, nous devons nous rappeler que quel Dieu a été et est pour nous. Mais c'est aussi un signe pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui reconnaissent pas Dieu comme leur Dieu, peut-être vos amis, vos proches. C'est important de donner à ceux qui ne connaissent pas Dieu, de voir les choses belles et puissantes que Dieu fait dans la vie de son peuple, dans la vie des chrétiens. Soyez transparents sur ce que Dieu fait dans vos vies. Montrez que vous entretenez les souvenirs de ce que Dieu a fait dans votre vie par la prière, la lecture de la Bible, le temps passé avec les chrétiens. Ça sera un témoignage pour eux, ces mémoriaux. Conclusion, mais je suis tellement forte au niveau timing. Oh là là, ça flatte mon ego à fond, il faut que demain je me plante. Conclusion, il faut donc nous souvenir de qui est Dieu. Et de qui est l'homme aussi devant lui. Nous souvenir de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Dieu fait homme venu dans le monde pour réconcilier Dieu avec les hommes et aussi réconcilier les hommes entre eux. Homme-Dieu, homme-homme. Se souvenir de tout ce que Dieu a fait et fait encore dans nos vies. Mais quand Dieu parle de se souvenir, il ne parle pas d'une mauvaise nostalgie qui nous ferait vivre dans le passé. Ah, c'était tellement bien au début quand j'étais chrétien, j'étais à fond, mais là maintenant c'est moins bien, etc. Il parle d'un souvenir qui nous pousse vers l'avant, se rappeler pour avancer. Il paraît que Michel-Ange, le peintre du XVIe siècle, a dit, je dis paraît parce que j'étais incapable de retrouver la source exacte, mais tout Internet dit que c'est lui, donc tout Internet doit avoir raison. Il paraît qu'il a dit, Dieu a donné une sœur au souvenir, il l'a appelée Espérance. C'est très beau. Et c'est très vrai. L'idée de cette phrase, c'est que le souvenir est censé nous ouvrir sur l'avenir. En se rappelant des belles choses que Dieu a fait dans le passé, on prend confiance dans les belles choses qu'il va faire dans l'avenir. Car il est un Dieu qui ne change pas et qui tient ses promesses. Ce qu'il a commencé avec la sortie d'Égypte, il l'a fini avec l'entrée en Canaan. Presque, il y a encore un peu de boulot, on va en parler dans la suite. Ce qu'il a commencé dans vos vies, peut-être même vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a commencé, que vous êtes vraiment au début. Mais ce qu'il a commencé dans vos vies, l'œuvre de restauration, il va la finir. Il va travailler avec vous, avec son esprit, pour vous faire avancer. Et finalement, lors du retour du Christ, il achèvera totalement son œuvre. Alors souvenez-vous et espérez.